Donc Tim Heron, au sein de Pound, il s'occupe de la traduction et apporte une perspective d'angliciste à l'étude du punk en France. Il souligne par exemple les résonances et discordances entre les scènes françaises et celles situées dans le monde anglophone. Il a soutenu sa thèse, Le punk en Irlande du Nord, 1976-1983, en novembre 2017, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et depuis septembre, comme on l'a dit ce matin, il est maître de conférences en études anglophones à l'université de Strasbourg. Tim, c'est à toi.
Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli déjà cet après-midi. Première remarque, j'ai changé le titre de ma thèse. Je suis désolé, je ne vais pas parler de bondage et de BDSM aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois, donc je l'ai appelé Belfast Calling, quelques observations sur la scène punk nord-irlandaise. Alors, le week-end dernier, j'assistais à un colloque à ma nouvelle université, et c'était un colloque sur les frontières, sur les limites, parce que c'est très à la mode en ce moment. Et pendant cette conférence, il y a eu une seule communication sur l'Irlande du Nord, et c'était pas la mienne. Et même avant de regarder le titre, je pouvais deviner sur quoi allait porter cette communication. Et c'était sur les peintures murales à Belfast, comme 90% des communications qui se font en France sur l'Irlande du Nord. Alors, ça m'a rappelé pourquoi, en tout cas, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ma thèse sur le punk, c'est parce qu'en fait, j'en avais marre des clichés en fait sur cette Irlande. Donc, c'est une communication. Ce type de communication contribue à l'image traditionnelle de l'Irlande du Nord, une société d'arriérés où les catholiques tapent sur les protestants, où les protestants tapent sur les catholiques, et où les seules formes de culture que nous sommes capables de produire sont les cocktails Molotov, d'une part, et d'autre part, les peintures murales de ce type qui incitent à la haine de l'autre. Donc, ma thèse que j'ai soutenue il y a à peu près un an à Reims, avec Claude ici présent, Solveig et Luc aussi sont venus me voir, Un des objectifs de cette thèse était de sortir du carcan imposé de manière ordinaire à l'Irlande du Nord des années 70 et de refuser d'analyser cette société uniquement en termes d'un simple conflit entre deux groupes qui se détestent depuis des millénaires, une lutte binaire entre nationalistes et unionistes, entre catholiques et protestants. Mon but était, dans le cadre des études irlandaises et britanniques, de mettre en lumière des réalités qui sont longtemps passées inaperçues, ont été oubliées, voire ignorées à cause de l'intérêt médiatique et académique, certes compréhensible pour les troubles, pour le conflit nord-irlandais. Je voulais également tenir à distance cette autre lecture de l'Irlande, celle d'un Éden reculé, une île de farfadets superstitieux, alcooliques, mais bon enfant, qui, lorsqu'ils ne sont pas en train de jouer au violon ou à la flûte entre les menhirs et les dolmens, ou en train d'écrire de la poésie lyrique en hommage aux pommes de terre, astiquent le chapelet du prêtre dans le confessionnal. J'ai donc décidé de travailler sur le punk en Irlande du Nord pendant la période 1973 à 1983. Un de mes objectifs était de mesurer l'impact du punk, phénomène de culture populaire, sur les pratiques et la vie quotidienne des jeunes nord-irlandais qui ont participé à cette scène. Mes travaux de recherche m'ont permis de conclure que le phénomène punk, grâce aux interactions inédites qui ont eu lieu sur la scène locale entre catholiques et protestants, hommes et femmes, jeunes issus des classes moyennes et des classes populaires, grâce aux transgressions sémiotiques provoquées par le recours au do-it-yourself, DIY, et par la tenue vestimentaire grotesque et queer associée au punk, grâce enfin à l'expression des aspirations des jeunes nord-irlandais dans les chansons punk, le punk donc a donné lieu à de nouvelles configurations qui ont laissé entrevoir les fondements d'une alternative Ulster, une autre Irlande. Une autre Irlande du Nord, loin des clichés ordinaires. Alors, en effet, le phénomène punk en Irlande du Nord constitue un réseau alternatif en ce qu'il interroge ses interprétations classiques de la société nord-irlandaise en termes d'une lutte binaire entre catholiques et protestants. Mes travaux ont également permis de souligner la vitalité et l'importance des scènes musicales locales qui émergent dans des régions périphériques du monde anglophone, ainsi que de manière plus générale la capacité de la culture populaire à former une critique de la société. Pour cela, je me suis reposé sur de nombreuses sources secondaires ainsi que des sources primaires, un questionnaire, une vingtaine d'entretiens avec des acteurs de la première scène punk nord-irlandaise, ainsi qu'un corpus de 200 chansons. Alors, pendant cette communication, j'espère partager avec vous quelques observations, trois observations qui, je l'espère, trouveront résonance avec vos propres travaux sur la scène punk ou les scènes punk en France. Alors d'abord, pour vous donner une idée de ce qu'était la scène punk en Irlande du Nord, plutôt que de résumer la thèse, je vais partager avec vous un petit texte que j'ai écrit il y a 2 ans pour l'Inqualifiable, la revue lancée par Philippe Lyotard. Et ça s'appelle Alternative Ulster. Is this the IRA or is this the UDA? Is this, yeah, the other way around, is this the UDA or is this the IRA? I thought it was the UK. Ici, Johnny, on est en Ulster. Rotten a beau chanter l'anarchie, nous, en Irlande du Nord, on la vit, au quotidien. Johnny n'a pas vécu les fouilles à l'entrée des magasins, les soldats et fourgons blindés à chaque coin de rue, les bandes de voyous qui te caillassent parce qu'ils t'ont vu sortir du mauvais quartier. Vichous n'a pas connu les bombes dans les boutiques, les fusillades dans les bars, les membres ou organes qui jonchent les pavés. Dommage collatéral. S'il venait ici, il se rendrait vite compte que l'anarchie, ce n'est pas l'état d'exception. C'est la routine, le train-train, l'apathie face à une violence qui n'en finit pas. Une violence qui ne touche pas tout le monde, mais qui peut toucher n'importe qui. Mais comment les pistoles seraient-ils? Ils ne sont jamais venus ici. Les clashs, eux, sont venus. Le 20 octobre 1977. Mais ils n'ont jamais pu profaner le Ulster Hall, ce temple du rock. Les élus annulent le concert à la dernière minute. Une question d'assurance, disent-ils. Les jeunes punks venus de partout, certains des quartiers chauds de Belfast, d'autres du fin fond, se retrouvent comme des cons. Donc on fait quoi? On fait ce que les Nord-Irlandais savent faire de mieux. On commence une émeute. On gueule, on bloque la route, on casse quelques vitres. Bien sûr, la RUC, les flics protestants au service de Sa Majesté, sont là en moins de 2. Les journalistes aussi. On peut toujours compter sur eux. Les matraques et les moleskines. Les flics nous bastonnent et nous foutent dans leur fourgon. Les journalistes nous prennent en photo pendant que l'on hurle SS RUC, SS RUC. L'émeute de Belford Street, un gros titre tout prêt pour le lendemain. Un mitiné. Comme au 100 Club, comme à Mont-de-Marsan, chaque punk nord-irlandais était là, même ceux qui n'étaient pas encore conçus. Et les membres des Clash, pendant ce temps-là, ils se font prendre en photo, comme on a vu tout à l'heure, devant les fourgons blindés et le fil de fer barbelé, loin de l'échauffourée. Une photo-op pour le seul groupe qui compte, l'anarchie, prête à consommer. Le pire, ce ne sont pas les bombes ou les balles perdues, c'est l'ennui, une torpeur implacable qui se loge dans les estomacs, qui s'installe sur les visages, qui hante les rues. La nuit, les villes sont désertes. Personne ne sort de peur de se faire enlever, tabasser ou pire. Personne ne sort sauf les putains, les punks et les pédés. À Derry comme à Belfast, c'est comme ça que l'on t'appelle si tu essaies de respirer, de te dérider, de te démarquer. La nuit, on est tous pédés. La drogue n'est pas une échappatoire non plus, du moins pas si tu vis dans les quartiers populaires. Si les paramilitaires te voient prendre du speed, ils t'accompagnent dans une allée sombre et te mettent une balle dans chaque genou, si tu as de la chance. Du coup, il ne nous reste que la vinasse, la bibine et la glu. Jamais le shit, ça c'est pour les hippies et les étudiants. Oui, le véritable ennui, c'est l'ennui. Cet ennui qui rend fou, qui pousse les flics à tabasser, les bidasses à brutaliser et les ados à s'engager dans l'IRA ou l'UDA. Le seul répit, ce sont les concerts. Et quels concerts? De bons groupes, on en a un tas, et de toutes sortes. Il y a les naïfs, les Undertones, les faux durs, les Outcasts, les malchanceux, Rudy, les vendus, Stiff Little Fingers, et des dizaines d'autres groupes qui, semaine après semaine, célèbrent des grands messes dans les quelques bars miteux qui veulent bien accepter les punks, les mineurs et les catins. Cato ou Parpaio, on danse, on sue, on crache, on pue. Sabbat de salaud, bacchanal pour bourrin. Pourtant, ce ne sont pas les prêtres du punk qui comptent, mais nous, les punks ordinaires. Ou plutôt, tous les punks sont prêtres. On officie tous. Oubliez les martyrs républicains. Oubliez les défenseurs du peuple protestant, les illuminés du grand soir et les culs bénis. Nous sommes nos propres héros. Nous, les punks. Nous qui restons en Irlande du Nord plutôt que de déguerpir, comme ces bourges d'étudiants. Nous qui ne rejoignons pas l'armée. Vive l'Angleterre. La police. Vive la reine. Ou les paramilitaires. Vive la République. Vive l'Ulster libre. Nous qui, sans foi ni loi, avons pour seul credo la musique et la défense. Nous sommes Tags, catholiques, ou Huns, protestants, mecs ou meufs, hétéros ou queer. On pogote ensemble, on boit ensemble, on sniffe ensemble, on couche ensemble. Pendant l'espace de quelques heures, on redessine les frontières de l'Ulster. Billy, du quartier du Shankill, plus parpaillot que là, il n'y a pas, a ramené chez lui Damien, un copain batteur, et Cato. Tous les gamins du quartier se sont entassés dans le salon pour passer leurs mains, tour à tour, dans ses cheveux, pour voir s'il avait des cornes. Des cornus, il y en a en Irlande du Nord, mais pas parce qu'un punk, faut pas croire, c'est un sacré sex appeal. Quand on se pelote dans les toilettes du Harp, du Pound, du Casbah ou de l'Anarchy Center, on ne cherche pas à savoir si la chair est protestante ou catholique. Sous les néons rouges, on pratique l'œcuménisme comme personne. Teenage kicks dans les chiottes, c'est ça le processus de paix. La paix, qui en veut vraiment? Un gouvernement composé demain des crapules qui hier nous passaient à tabac. Un boulot de petits fonctionnaires ou de conducteurs de taxi. Une maison mitoyenne dans un quartier ségrégué. Une Ford Cartina qui roule à peu près. Un bébé que l'on va devoir envoyer dans une école, soit catholique, soit protestante. Ça sent le rêve, ça? Et puis qu'est-ce que ça change pour nous? Ulster indépendante, Irlande unie, République d'Irlande, Royaume-Uni. On s'en fout, nous. Ce qu'on veut, c'est une Irlande où on ne s'ennuie pas. Ce qu'on veut, c'est l'anarchie, mais selon nos propres termes. On veut un avenir, mais imaginé par nous-mêmes. Pas Anarchy in the UK, mais Alternative Ulster. Alors, ça, c'est pour un petit aperçu de l'ambiance de l'époque, un petit résumé de ma thèse. Maintenant, pour les observations, les conclusions de cette thèse. Ma première observation concerne les dangers du star system punk. Alors, un personnage incontournable de la scène punk nord-irlandaise est Terry Hooley. C'est un personnage plus grand que nature, une sorte de Malcolm McLaren nord-irlandais, en un peu moins con, faut le dire. Un protestant qui avait un père communiste, chose rare en Irlande du Nord, un homme avec un œil de verre qui s'amusait à le placer dans les verres de ses amis, les verres de whisky de ses amis. Donc Terry est le fondateur d'un magasin de disques et d'un label nommé Good Vibrations, qui est devenu pendant des années le label indépendant le plus important de l'Irlande du Nord. Il a dépensé beaucoup d'énergie et d'argent pour aider des petits groupes et pour lancer de nouveaux projets. C'est Hooley, par exemple, qui a fait enregistrer Teenage Kicks des Undertones à un moment où le groupe comptait renoncer à la musique. Il a également organisé plusieurs festivals punk ainsi que des tournées dans toute l'île. À chaque fois qu'un documentaire sur le punk sort en Irlande, il est sûr d'y figurer. Il a été surnommé d'ailleurs par les médias le parrain du punk nord-irlandais. Alors, un très bon film, et c'est l'image suivante, un très bon film s'inspirant de sa vie est sorti il y a 5 ans. Il a maintenant été adapté en comédie musicale au Lyric Theatre de Belfast, qui est un temple du divertissement pour l'élite culturelle et pour les classes moyennes aisées. Le film et la pièce racontent notamment comment Terry Hooley a découvert le punk à Belfast en janvier 1978 et a permis à une scène de voir le jour en prenant gracieusement les premiers groupes punk sous son aile. Or, un réseau punk existe déjà en Irlande du Nord depuis la fin de 1976. Il existe déjà des labels punk autres que Good Vibrations et les premiers concerts ont en fait déjà eu lieu depuis des mois. Alors, personnalité omniprésente à Belfast, le récit personnel de Terry Hooley sur la scène punk s'est rapidement imposé comme discours officiel, accepté par ceux qui n'ont pas fait partie de la scène, mais également par certains des membres des groupes de musique qui lui sont proches. Parfois, la réécriture du passé n'est pas simplement le résultat d'une focalisation trop importante sur la trajectoire d'un individu, mais le produit de contre-vérités. Terry Hooley lui-même admet qu'il a parfois tendance à exagérer les faits. Même dans les rares travaux universitaires qui font référence à la scène punk nord-irlandaise, son rôle est largement exagéré. Les pouvoirs publics, et c'est la diapo suivante, les pouvoirs publics participent également de ce processus de mythification. En 2012, la ville de Belfast a inauguré une plaque à l'ancien emplacement de son magasin de disques en hommage à la, et je cite, à la contribution de Terry Hooley et Good Vibrations au patrimoine musical de Belfast. Alors, le fait de se focaliser sur le personnage de Terry Hooley occulte le fait qu'une scène punk existe déjà et passe sous silence les voix des multiples acteurs et actrices de cette scène. Hooley fait partie d'un petit nombre de gatekeepers, de portiers, de gardiens des clés qui contrôlent le récit sur le punk nord-irlandais. Il y en a plusieurs, mais on peut citer également le chanteur des Outcasts, Greg Cowan, qui est proche de Hooley, et Stuart Bailey, une personnalité médiatique locale qui est animateur à la BBC et qui dirige un important centre culturel à Belfast. Ce que ces trois personnes ont en commun est qu'ils possèdent un grand capital social. Ils ont également issu ou ont accédé à une classe moyenne très bien lotie. Ils sont également des grandes gueules. Alors cette première observation concerne le danger pour le chercheur de trop se reposer sur le récit établi par le star system du punk. En Irlande du Nord, mais je suis sûr que cela se retrouve également sur certaines scènes en France, il est donc, je crois, impératif de recueillir le témoignage non seulement des personnages hauts en couleur, mais également des actrices et acteurs plus anonymes qui ont souvent des choses à dire, qui remettent en question le grand récit punk de la région ou du pays. La difficulté est bien sûr de les localiser et les persuader que leur témoignage est digne d'être entendu. Alors pour ma part, et c'est un point que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, c'est par le biais de la tenue, des vêtements, du corps punk que j'ai pu observer la contribution et l'importance des punks anonymes et ordinaires qui sont en fait bien sûr loin d'être ordinaires. Ma deuxième observation que j'ai appelé, donc j'ai rayé London Burning et j'ai mis tout, enfin, certaines des villes étapes pinned. Alors, ma deuxième observation concerne un point que j'ai déjà abordé il y a 2 ans, le caractère translocal du punk. Donc les scènes punk sont résolument locales, comme vous le savez, même loin de la capitale, Londres ou Paris. Elles ont souvent leurs propres infrastructures, salles, labels, magasins de disques, fanzines. Et loin d'être omnibulés par la capitale, les punks sont souvent fiers dans leur scène locale. Alors que les Nord-Irlandais éprouvent traditionnellement une certaine honte à l'égard de leur accent et de leur identité, alors que la grande tradition pour les musiciens irlandais est de quitter l'île, donc c'est l'exil, quitter l'île pour s'installer en Angleterre ou aux États-Unis, les punks nord-irlandais sont extrêmement fiers de leur propre scène. Les scènes sont également translocales, car loin d'être isolées, elles entretiennent des liens très forts avec d'autres scènes. Donc dans le cas de l'Irlande du Nord, les liens se déroulent à plusieurs niveaux. À l'échelle intra-régionale, donc à l'intérieur de l'Irlande du Nord, entre des villes comme Belfast, Derry, Bangor et autres. À l'échelle intra-insulaire, donc à l'intérieur de toute l'Irlande, Derry, Belfast, Dublin. À l'échelle inter-insulaire, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, donc Londres, Manchester. Et à l'échelle internationale, Paris, New York. Christophe a parlé plusieurs fois, je pense, des Normands, de Lisieux ou ailleurs qui partent prendre le ferry pour se rendre à Londres. C'est pareil pour les Irlandais, même ceux qui vivent dans une ville qui est quand même très reculée, comme Derry. Ils prennent le bus et le ferry pour traverser la Grande-Bretagne et se rendre à Londres. Même les scènes les plus périphériques ne sont jamais isolées. Par ailleurs, même si Londres est perçu comme une sorte de haut lieu du punk, même si le punk londonien exerce une influence certaine sur la scène nord-irlandaise, elle n'est en aucun cas la seule. Les groupes américains comme les Stooges et surtout les Ramones, les groupes de pub rock britanniques comme Dr. Feelgood et avant cela le glam rock, T-Rex en particulier, ont influencé les premiers groupes de punk nord-irlandais comme Rudy et les Undertones, de sorte qu'une scène punk émerge en parallèle plutôt qu'en réaction à la scène londonienne. Cela remet en cause les récits qui réduisent les scènes locales et les scènes à l'extérieur de l'Angleterre, donc en France, à de pâles copies et qui réduisent les punks eux-mêmes, les punks hors capitale, à l'état de simples suiveurs. Londres, New York, Paris ne constituent pas l'alpha et l'oméga du punk dans leurs régions respectives du monde. La création punk apparaît partout. Ma dernière observation concerne les générations punk. Alors que dans un premier temps, j'avais l'intention de travailler dans ma thèse sur le punk nord-irlandais des années 70 et 80, c'était d'ailleurs le premier titre de ma thèse, je me suis rapidement rendu compte lors de mes entretiens que cette périodisation ne faisait pas vraiment sens, donc j'ai choisi de me concentrer sur les années 76 à 83 qui correspondent plus ou moins à la première vague de punk en Irlande du Nord. La périodisation en vague revenait constamment lors des entretiens. Pas forcément avec ce terme précis, mais c'était tout de même de manière constante, de manière consciente et de manière revendiquée. Les punks avec qui je discutais, selon qu'ils avaient été actifs dans les années 70 ou 80, semblaient avoir vécu des expériences assez différentes. Cela est dû en partie au contexte local. Les années 70 sont une période en Irlande où le taux de violence paramilitaire et intercommunautaire baisse quelque peu, mais dans les années 80, suite aux grèves de la faim notamment, la situation s'envenime, il y a une nouvelle phase de repli communautaire et les attaques et attentats se multiplient. La scène punk de la seconde vague est bien plus petite, elle voit le jour dans ce contexte, elle est bien plus petite à cause de la séduction qu'exerce alors le communautarisme. Mais c'est surtout parce que la première vague punk s'étouffe ou se transforme au début des années 80, 82-83 en Irlande du Nord. Dans son sillon émergent de nouveaux genres et microcultures qui sont plus ou moins assimilés, notamment le oi et l'anarcho-punk. Alors que le punk de la première vague se distingue par une relative diversité musicale et par une posture contestataire mais apolitique ou antipolitique, les nouveaux styles de punk ont en commun le fait d'être à la fois plus agressifs et plus politisés. Et on voit d'ailleurs Crass qui est venu jouer en 82 au Anarchy Centre qui a donné naissance à de nombreux groupes nord-irlandais d'anarcho-punk locaux. Alors, le problème, c'est que dans le contexte nord-irlandais, être politique, ça veut forcément dire diviser. En Irlande du Nord, la droite est associée à l'unionisme et aux protestants, et la gauche au mouvement républicain et aux catholiques. Donc, si vous êtes anarcho-punk, vous allez forcément chasser en fait une partie de votre public qui associe directement tout ce qui ressemble à la gauche, en fait, aux catholiques. Un punk politisé et militant en Irlande du Nord signifie donc forcément une fragmentation de la scène. Il y a également la question de la continuité et de l'héritage. Les punks de la seconde génération voient ceux de la première comme trop rock, Les anarcho-punks, notamment, que j'ai interviewés, voient le punk 70s comme trop peu politisé et déplorent que l'accent soit mis en priorité sur le divertissement, le plaisir et la défonce. Quant aux punks de la première génération, à part quelques exceptions, ils semblent voir le oi, le street punk ou l'anarcho-punk comme une simplification ou un abrutissement du punk de leur génération et estiment que l'expérimentation sonique et esthétique du post-punk constitue le véritable héritage du punk rock. Ils ont également tendance à voir le discours explicitement politique des anarcho-punks avec une certaine méfiance. On a donc deux visions très différentes du punk qui se confrontent, et cela se manifeste par une certaine rivalité entre deux générations. D'ailleurs, les punks des deux générations ne se côtoient pratiquement jamais, même lors de réunions de groupes ou lors de diffusion de films sur le punk néerlandais. Cela soulève donc la question de la périodisation, mais également de la définition, qui, selon mon expérience en tout cas, change beaucoup d'un interlocuteur à l'autre. Punk ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, avant tout pour les punks. Et donc, je me demande donc si cette observation s'applique également à vos propres recherches sur les scènes punk en France. Et je vais finir avec cette dernière question. Les punks de différentes générations parlent la même langue, ont des références communes, mais parlent-elles et parlent-ils vraiment de la même chose? Donc voilà, je vous laisse avec ça.
Merci beaucoup, Tim, de nous avoir fait partager quelques-unes des recherches que tu as menées dans ta thèse. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Tu as évoqué la scène de Belfast, principalement.
Derry, un petit peu, et puis une autre ville qui s'appelle Bangor, où le punk a vraiment commencé, en fait.
Et comment est reçu, par exemple, des morceaux comme Sham sur Ulster Boy, tout ça? Est-ce qu'il y a eu une résonance de l'autre côté? C'est-à-dire, comment reçoivent les Irlandais ce qui peut se chanter
La résonance, c'est que lors de la diffusion de je ne sais plus quel groupe reprenait cette chanson-là dans un pub en Irlande, la réaction, c'est que quelqu'un a sorti un flingue en se disant que c'était une chanson explicitement loyaliste, donc explicitement liée aux paramilitaires. Et l'histoire que je raconte souvent, c'est que le punk en Irlande du Nord, donc surtout quand le single des Sex Pistols sort, donc le God Save the Queen, surtout le défilé sur la Tamise et ainsi de suite, les t-shirts de Malcolm McLaren et Vivienne Westwood, personne n'y en du Nord sait comment l'interpréter. Donc les gamins des deux côtés, qu'ils soient républicains ou nationalistes ou loyalistes, donc catholiques ou protestants, s'ils sont punk et qu'ils portent ça, ils se font tabasser par tout le monde, puisque les républicains voit ce t-shirt comme un symbole de monarchisme, de loyalisme, alors que les loyalistes eux-mêmes voient ça, à juste titre, comme une attaque sur la monarchie.
Moi, j'ai vachement aimé ce que tu disais, surtout le début, sur le fait d'être punk en Irlande du Nord, avec la violence et tout ça. Et j'ai eu l'occasion, pour ne pas dire la chance, d'aller en Biélorussie quelques années. Et j'ai fréquenté des scènes punk, narco, etc. Et donc d'aller à un concert et tout. Et c'est vrai que moi, je suis pas spécialement punk, parce que je viens du skate principalement, en fait, même si j'écoute plein de trucs comme ça. Et en fait, le retour a été assez perturbant, parce que j'ai vu, enfin plutôt entendu, que t'as des gamins de 22 ans qui font de la musique, en gros, se font arrêter par les forces spéciales pour aller en HP, pour se faire questionner et tout ça. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça un petit peu dans ce que tu disais, parce que c'est facile d'être punk anarchiste à Paris, en Occident, à l'Ouest en tout cas, enfin peut-être pas l'Irlande apparemment, machin. Et je trouvais que c'était... ça faisait vraiment penser à ça. Donc c'était... parce que de revoir cette violence mentale qu'un État totalitaire impose à des gens de manière unilatérale depuis au moins 30 ans, 40 ans, c'est hyper dur pour la jeunesse, parce que rien que le fait des gamins de 20 ans qui jouent de la musique, ça devient un truc, une action contre l'État, en fait, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Et donc voilà, c'est juste pour dire ça, parce que ça me faisait vraiment penser à ça, en fait. Voilà.
Oui, et puis ironiquement, t'as un phénomène bizarre où en fait les parents des punks sont super contents quand leurs gamins deviennent punks, parce que à l'époque, c'était des gamins dans un quartier ouvrier ou populaire. Tu es très facilement recruté par les ailes de jeunesse des paramilitaires. Et puis j'ai interviewé beaucoup de personnes qui disaient mais nos parents étaient ravis, ils nous ont laissé squatter chez eux, on pouvait faire ce qu'on voulait, parce que être punk, c'était rien par rapport à être paramilitaire et puis se promener avec des flingues, des fusils dans la rue. Donc
je pense aussi que comme en Biélorussie, en fait t'as plein de gens qui deviennent paramilitaires parce que c'est un boulot et du fric. Là, la plupart des jeunes, en fait, parce que t'as le KGB, fonctionne toujours là-bas. Et y a plein de gens qui se mettent dans les jeunesses KGB. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça pendant les défilés du 9 mai, donc la fin de la guerre pour eux. Et tu vois des dizaines de mecs de 20 ans en costard qui sont des jeunesses KGB parce qu'on leur donne un appart, on leur donne du boulot et puis du fric. Et puis comme ils sont au service de l'État, ben, ils sont bien notés, etc., etc. Donc ça leur fait un avenir confortable, même si psychologiquement ou mentalement, ils sont pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais régime soviétique pur et dur, quoi.
Absolument, oui. Alors, le seul contrat, c'est que les punks nord-irlandais eux-mêmes disent, donc j'ai parlé à plusieurs groupes qui sont reformés, qui ont fait des tournées dans les ex-pays soviétiques, et puis ils disaient que beaucoup de punks, enfin, de vieux punks, on va dire, de ces régions-là, ils disaient, ah, oh, vous aviez tellement encouragé en Irlande du Nord, ce que vous traversiez. La différence, quand même, c'est qu'on n'avait pas. La répression ne venait pas tellement de l'État directement, la violence venait surtout des deux communautés. Donc ils ont quand même eu une certaine liberté par rapport. Donc ils risquaient pas de faire de prison ou pour ça. Mais par contre, oui, c'était vraiment plutôt la violence qui venait des jeunes de quartier, en fait. C'était surtout leur père PAIRS qui les tabassait.
C'est juste une tu as dit que ta période allait jusqu'en 83. Ouais. Il y a des groupes qu'on va dire post-punk pour faire simple. Je crois que les Virgin Prunes sont irlandais, c'est ça. Est-ce que ces groupes-là, qui sont quand même assez spéciaux d'un point de vue esthétique, etc., sont aussi marqués politiquement que cette génération purement punk, on va dire, pour faire simple, encore une fois ?
Ça dépend ce que tu veux dire par politique. Alors, les Virgin Prunes, ils sont de Dublin, et Dublin, c'est une scène complètement différente, en fait. La scène dublinoise, elle prend forme vraiment avec U2 dans les années 80. Donc avant, en fait, les Dublinois, il y a quelques petits groupes de punk, et puis ils partent en Angleterre, en général.
D'accord.
Mais de côté politique, pour la première vague, ça reste vraiment très apolitique, anti-politique. Ce sont des chansons surtout sur le fun, la défense, les filles, le divertissement. Donc, et ça, justement, ça permet une échappatoire parce qu'enfin, on peut parler de quelque chose autre que les gens qui meurent dans la rue. Donc c'est...
Parce que U2, ils ont un peu fait ça. Il y a deux, trois chansons un petit peu engagé, comme Sunday Bloody Sunday ou des choses comme ça, quand même.
Oui, du confort de leur quartier dubinois,
voilà,
justement.
Voilà, On parle pas du U2 d'après, on parle au moins des deux premiers albums, quoi.
Et pour le post-punk, par contre, il n'y a pas beaucoup de groupes nord-irlandais, justement, parce qu'après la première scène, la violence redémarre. Belfast, qui est redevenue, c'était une grosse capitale rock dans les 60s, la ville de Van Morrison, et ainsi de suite. Dans les années 70, avec le punk, il y a un début d'infrastructure qui se remet en place. Ensuite, quand Dublin démarre avec les troubles qui continuent, tout se reporte sur Dublin. Donc à Belfast, il y a un peu un vide pendant quelques années.
D'accord.
Merci beaucoup à tous. Merci.